Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons voir les premières rencontres de Jésus et le rapport entre Jean-Baptiste et Jésus. Et la première lecture.
Donc la première lecture, c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 13 à 20. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira ceci et celui-là. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées ? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps ? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps. Mais le débauché pèche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps.
Et la seconde lecture est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 42. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avait écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver, avant tout autre, son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas », ce qui veut dire Pierre. En ce début d'année, il me semble qu'on peut vivre nous aussi cette sorte de commencement de l'histoire de Jésus-Christ en nous référant à Jean-Baptiste, qui est le précurseur témoin par excellence. Le doigt tendu vers celui qui vient vers les hommes, l'humble prédicateur qui s'efface devant la personne du Sauveur, qui seul importe aux hommes en attente de libération et de salut.
Dans les versets 35 à 42 du premier chapitre de Jean, que nous venons de lire, nous aimerions donc repérer avec vous trois notions évangéliques importantes. L'évangélisation, la conversion et la vie nouvelle.
Donc tout d'abord, l'évangélisation. Jean-Baptiste est le personnage que nous rencontrons en premier dans ce texte. Jean-Baptiste est l'évangéliste par excellence, celui qui annonce le Christ. Le baptiseur est celui qui évangélise. « Voici l'agneau de Dieu, dit-il en voyant venir Jésus vers lui, et la veille il avait précisé « celui qui enlève le péché du monde ».
Deux disciples de Jean-Baptiste qui se tenaient à ses côtés l'entendirent alors et suivirent Jésus. Les deux premiers disciples de Jésus, c'est donc Jean-Baptiste qui les a trouvés pour Jésus. Ces deux disciples, c'était le cadeau que faisait en somme Jean-Baptiste à Jésus au début de son ministère.
Le lien entre Jean-Baptiste et Jésus n'a pas dû être facile. Le rôle de précurseur exigeait une grande abnégation, une grande humilité. Jean-Baptiste, que l'Église orthodoxe représente souvent dans ses icônes, est le type même du témoin, de celui qui évangélise. Il n'est rien d'autre qu'une voix qui témoigne, un doigt qui montre le Sauveur.
Il n'est rien par lui-même, mais tout dévoué au service de Jésus, il ne fait que préparer le chemin du Seigneur, que crier dans le désert. Le moment venu, on le sait, il s'effacera complètement. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous avons ici pour toujours le secret et le mode d'emploi de toute évangélisation chrétienne.
Après que ses disciples auront entendu le témoignage qu'ils donnaient de Jésus, lorsqu'ils auront vu et suivi Jésus, le rôle de Jean-Baptiste sera terminé. Il faut bien reconnaître que ce rôle était peu facile et peu alléchant, on dirait aujourd'hui peu valorisant.
Nous pourrions voir pourtant en Jean-Baptiste un exemple et un modèle pour notre propre vocation de témoin et d'évangéliste, de parent chrétien ou de catéchète chargé de la transmission de l'Évangile. Comment parler de Jésus à nos enfants? Comment parler de Jésus-Christ à nos amis, à nos voisins, à nos camarades de travail ou d'études? Comment évangéliser? Comment témoigner?
Voici l'agneau de Dieu, dit Jean-Baptiste en montrant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Image humble et forte à la fois. Il ne dit pas « voici le Messie d'Israël » ou le prophète, mais « voici l'agneau de Dieu ». Comment être soi-même triomphaliste en présentant un tel sauveur? Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui devait venir, ce serviteur souffrant annoncé par le prophète Ésaïe, ce serviteur des hommes, cet agneau pascal dont le sacrifice rappelait au peuple d'Israël la promesse de son rachat, de sa libération et de son pardon.
Voici l'agneau pascal qui vous donnera assez de force pour vous permettre de vous mettre en route et de marcher à travers le désert vers la terre promise. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez, prenez et buvez, dira Jésus au moment de la scène. Et nous rappelons ces paroles chaque dimanche, à chaque scène ou chaque Eucharistie.
Voici l'agneau pascal qui ôte le péché du monde, qui enlève votre péché, qui vous soulage de ce fardeau de tristesse paralysante, qui vous libère du poids écrasant de l'esclavage et qui vous rend léger pour la marche, apte et souple pour la vie, pour la lutte, pour l'amour.
Voici l'agneau de Dieu dont le sacrifice, dont la solidarité avec toute la souffrance des hommes, toute la misère et tout le péché du monde signifie que désormais la joie est possible sur cette terre, au milieu même de la tristesse, le rire au milieu des larmes, la guérison au cœur de la maladie et la vie au sein même de la mort.
Voici l'agneau de Dieu qui partage toute notre vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché, telle est la vocation de Jean-Baptiste, montrer aux autres le Sauveur. Tel est le rôle de témoin de Jean-Baptiste, mais aussi désormais de chaque chrétien, de chaque parent, des catéchètes, des pasteurs, des curés, des prêtres.
Cette mission d'évangéliste n'est donc pas réservée aux plus savants d'entre nous, ni aux plus brillants théologiens, ni aux prédicateurs les plus éloquents.
Il ne saurait y avoir de culte de la personnalité dans l'Église de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est justement celui dont la personnalité sera sacrifiée. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dira-t-il plus tard. Et cette parole fait de lui l'exemple et le modèle du témoin et de l'évangéliste.
C'est ainsi que nous sommes, nous aussi, appelés à témoigner et à évangéliser. Nous montrons Jésus en le désignant comme le libérateur, celui qui libère de la tyrannie et de la peur paralysante du péché. Toute évangélisation et toute l'évangélisation consiste en cela, qui est simple, humble et fort. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Le deuxième mot que nous soulignerons à propos de ce texte de Jean au chapitre 1, c'est le mot « conversion ». Après l'évangélisation, la conversion. Après la catéchèse, une décision, une sorte de confirmation, une sorte d'accouchement spirituel, de nouvelle naissance, qui ne se fait pas sans mal d'ailleurs. Tournons en effet nos regards maintenant vers les deux disciples de Jean-Baptiste qui ont entendu ce message du témoin du catéchète.
Nous avons ici l'histoire de leur conversion. Comment s'est-il fait ce transfert de disciple de Jean-Baptiste à Jésus? Comment fait-on pour passer de Jean-Baptiste à Jésus? Ou du baptême d'eau au baptême d'esprit? La question nous concerne, bien sûr. Elle s'applique à nous-mêmes, aujourd'hui, directement.
Voici pour nous-mêmes, dans cette histoire, l'exemple d'une conversion, d'un engagement, d'une décision et d'un premier geste pour suivre Jésus. Les deux disciples écoutèrent Jean-Baptiste, furent sans doute étonnés et impressionnés par son témoignage, et suivirent Jésus.
Certes, leur démarche était-elle hésitante. Elle ne se voulait peut-être pas définitive, sans doute pas pour la vie, et elle le fut pourtant. Mais ils n'en savaient rien d'eux-mêmes à cet instant où ils ont dit oui.
J'aime beaucoup le récit de cette démarche hésitante, tâtonnante, de ce dialogue avec Jésus. Elle me semble proche de notre propre démarche, de nos perplexités et de notre conversion.
Peut-être quelques-uns parmi nous se reconnaîtront-ils aisément dans ce récit de conversion. Ne nous semble-t-il pas souvent qu'il nous reste encore et toujours à faire le pas décisif pour qu'il y ait un vrai commencement dans notre vie, une vraie conversion?
Peut-être avons-nous le sentiment d'en être restés à notre baptême d'eau, à une appartenance un peu molle et indécise à l'institution de l'Église. Peut-être sommes-nous toujours restés des disciples de Jean-Baptiste, sans avoir encore commencé à suivre Jésus, sans être devenus disciples de Jésus-Christ, témoins. Vous serez mes témoins.
Peut-être sommes-nous restés sur le seuil de la porte, hésitants et perplexes, au tout début du chemin, et il nous reste à faire ce premier pas, comme les deux disciples. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus, nous dit Jean. Ils entendirent et ils suivirent.
Puis Jésus, après un bout de chemin, se retourna, les vit et leur demanda : Que cherchez-vous ? Ce récit est intéressant par sa façon de présenter l'histoire d'une conversion dans l'Évangile. Jésus a compris la recherche des deux disciples et il les interroge. Que cherchez-vous ? Ces deux disciples cherchaient quelque chose. Cela était déjà évident lorsqu'ils avaient commencé à être disciples de Jean-Baptiste. Mais cela est encore plus évident aujourd'hui où ils essaient timidement de marcher derrière Jésus.
Et nous, ne sommes-nous pas en recherche aussi de quelqu'un ou de quelque chose ? Lorsque nous venons à l'église pour vivre avec d'autres un culte, une sainte scène, une parole, une prière, un partage, que cherchons-nous ? Peut-être quelque chose que nous avons déjà trouvé, puisque nous y revenons, mais que nous continuons à chercher. Et Jésus leur demanda, « Que cherchez-vous ? »
Et les deux disciples étaient incapables de donner une réponse claire et précise à cette question. Ils cherchent sans trop savoir quoi, comme certains parmi nous peut-être.
Je pense que c'est Dieu qu'ils cherchaient, et que nous cherchons tous. Mais nous ne le savons pas très bien, et nous ne savons pas toujours le dire.
C'est alors que le regard de Dieu nous rencontre en notre recherche. Jésus a compris l'attente, l'espérance, l'hésitation et peut-être même le désarroi de ses deux disciples.
Il leur demande ce qu'ils cherchent. Il leur parle sans les brusquer, sans les rejeter, sans violer leur attente un peu timide.
Timide, puisque ne sachant quoi répondre à Jésus, ils posent une question à leur tour comme pour gagner du temps, une question qui leur permet de ne pas rompre les ponts, de prolonger l'entretien, de laisser ouverte la possibilité de la rencontre, de l'aventure avec cet homme qui les fascine. Rabbi, où demeures-tu ?
Ne trouvez-vous pas cette maladresse et cette hésitation du dialogue avec Jésus admirable et pleine de signification ? Maître, où demeures-tu ? Où est Dieu ? Où habite-t-il ? Nous ne le savons pas. Est-il loin ou près ? Au ciel ou sur la terre ? Est-il le Dieu pur esprit, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel et immuable des philosophes, dont la distance et l'éloignement me laissent seul, petit, orphelin et désespéré? Où est-il ce Dieu devenu proche, parole devenue chair, Dieu devenu frère? Jésus, cet homme qui contient en lui tout le mystère de la présence et de l'amour de Dieu le Père. Venez, leur dit Jésus, et voyez.
Pas d'autre moyen que d'aller voir par soi-même. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une démarche personnelle. Nous ne rencontrerons Dieu ni par le raisonnement, ni par l'ascétisme, ni par la mystique, mais par l'acte de foi qui accepte d'aller voir. Il nous faudra vivre l'expérience de la foi plutôt que de disserter sur elle.
Et les deux disciples, nous dit Jean, demeurèrent auprès de lui. Cela suffit pour l'instant. Demeurez auprès de Jésus. Puisqu'on ne peut connaître Dieu véritablement que par Jésus. Qu'est-ce d'ailleurs qu'un culte ? Simplement la possibilité d'un rassemblement autour de Jésus, pour être près de lui, pour demeurer près de lui, par la prière et la louange, par l'écoute de la parole vivante, par le partage de sa présence et de notre unité fraternelle dans la scène. Ils demeurèrent auprès de lui. Vous avez remarqué la simplicité de cette histoire en ses étapes successives. Écouter, suivre, chercher, demeurer.
Je pense que c'est un peu tout cela, la conversion. Le premier pas de la foi. La part de l'homme qui rencontre Dieu sur le chemin de sa vie. Donc, dans ce texte de Jean que nous avons lu, nous venons d'évoquer l'évangélisation et le témoignage avec Jean-Baptiste, puis la conversion des deux disciples.
Suscitans terra in opere, mater in opere, suscitans terra in opere, mater in opere.
Et nous voici maintenant à la fin de notre texte. Et nous pourrons signaler, après l'évangélisation et la conversion, un troisième mot, la vie nouvelle. À la fin de ce texte de Jean au chapitre 1, nous trouvons en effet l'histoire d'André et de son frère Simon, qui deviendra Pierre. André était l'un des deux disciples qui ont suivi Jésus sur le témoignage de Jean-Baptiste. Mais maintenant, André est devenu, déjà, témoin et évangéliste à son tour, et quel témoin ! Il va trouver son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». On peut voir le chemin parcouru par André dans la foi. Et puis, il conduit Simon vers Jésus.
C'est une histoire très belle. C'est l'histoire de l'accueil que fit Jésus à un nouveau disciple en puissance, à Simon, le frère d'André. Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Képhas, ce qui signifie Pierre. » Ce qui me semble extraordinaire, c'est cette parole créatrice de vie nouvelle, ce regard de Jésus sur un homme quelconque. Jésus regarde Simon et il le voit autre. Il le voit changé et il change vraiment son nom. Tu seras appelé Képhas, c'est-à-dire Pierre.
Vous savez qu'au premier temps de l'Église, on changeait le prénom de celui qui était baptisé. On lui donnait un nom nouveau, un nom de baptême. Pour montrer que Dieu faisait du baptisé un être nouveau, une nouvelle création, nous dirait Paul.
La conversion ne nous est proposée et ne devient possible que parce qu'il y a ce regard de Dieu sur nous, regard d'amour, regard créateur de vie nouvelle. Notre conversion serait sans but s'il n'y avait cette vie nouvelle donnée par Dieu qui nous fait naître de nouveau pour une vie nouvelle.
Notre démarche à nous, notre recherche, sont et seront souvent hésitantes. Il ne faut peut-être pas trop se laisser impressionner par les conversions trop bruyantes, trop prétentieuses ou trop parfaites. Il y a certes une part de l'homme dans la conversion. Nous l'avons vu chez les deux disciples qui ont écouté, suivi et ont voulu demeurer avec Jésus. Mais la conversion n'est que réponse. Réponse de la foi au miracle de l'amour de Dieu, au miracle de la grâce.
Ce n'est pas ma conversion qui me change. Ce n'est que par le regard de Dieu sur moi que je commence à devenir autre. Notre salut, dit Paul, est par la foi et non par les œuvres, par la grâce et l'amour de Dieu.
Notre conversion ne consiste pas à décider que nous ne commettrons plus de péché, ni même que nous obéirons à la loi de Dieu, mais à accepter d'être regardés par ce regard d'amour de Dieu pour devenir ce que Dieu nous voit capable de devenir.
Croire, c'est faire confiance à ce regard d'amour de Dieu sur nous, c'est laisser Dieu nous regarder et nous parler. Notre conversion elle-même appartient à Dieu plus qu'à nous. Je ne me convertis pas, je suis converti par Dieu, changé par lui. Jean appelle cela nouvelle naissance, vie nouvelle et vie éternelle.
Mon nom à moi est Simon, je ne peux être que Simon. C'est Dieu qui me voit dans ma possibilité nouvelle d'être. C'est Dieu qui me voit autre, qui me voit devenant Pierre. C'est Dieu qui me voit fort et non faible. Moi, je me connais comme quelqu'un qui flanche si facilement, qui reniera Jésus par trois fois et qui l'abandonnera au moment crucial.
Tu es Pierre, toi, me dit pourtant Jésus. Tu seras appelé Pierre. Et toute l'histoire de l'Église, vous le savez, a commencé par cette parole sur Pierre. Ce regard, Pierre qui sera le grand apôtre des commencements de l'Église, avec son discours du jour de Pentecôte et son action de direction de l'Église.
Jean-Baptiste est un précurseur, un témoin du Christ, un évangéliste. Ses deux disciples sont catéchisés, convertis, amenés à une décision personnelle, suivre à leur tour Jésus-Christ, devenir témoins à leur tour.
Leur témoignage amènera une troisième personne vers Jésus et la transformera complètement. Simon deviendra Pierre et connaîtra une vie nouvelle.
Évangélisation ou témoignage, conversion ou nouvelle naissance, vie nouvelle, vie changée. L'Évangile est une bonne nouvelle. Ma vie dépend de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est illuminée par le regard d'amour que Dieu porte sur moi, regard pour l'espérance, pour la résurrection, pour une vie nouvelle. Quelques annonces, il a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas. Et je voulais aussi vous annoncer pour le dimanche 21 janvier, de 16h30 à 19h au temple, donc 20 rue Saint-Thomas à Chartres, il y aura 1534, la guerre de religion n'aura pas lieu. C'est un drame en 5 actes de Jean-Jacques Néré, mis en scène et interprété par la troupe des Deux Vallées. C'est une action culturelle de l'Église protestante unie de la vallée de Chevreuse. L'entrée est libre, il y a juste une participation aux frais. Donc le 21 janvier à 16h30. Et je voulais aussi vous rappeler la veillée de prière pour l'unité des chrétiens, le mardi 23 janvier à 20h30 à la cathédrale. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.